quelques passages de la parole. D'abord, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 29. Or, je dis ceci, frères, le temps est difficile. Au reste, c'est pour que ceux mêmes qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, car la figure de ce monde passe. Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur comme il plaira au Seigneur. Mais celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde comme il plaira à sa femme. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte et de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle plaira à son mari. Premier épître à Timothée, chapitre 4, verset 1er. Or l'Esprit Saint, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne, il n'y a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 3. Et les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant et lui disant, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et lui répondant leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait, dès le commencement, les a fait mâle et femelle, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur dit, « Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée, commet adultère. » Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Il y a des eunuques qui sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir le reçoivent. Verset 27. Alors Pierre répondant lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc ?» Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. »
Après quoi, les frères pourront certainement dire chacun quelque chose sur ce sujet à la fois difficile et important. Et puis, après que nous ayons terminé cette réunion, nous aurons un entretien où chacun, chacune sera libre de prendre la parole. Il aurait fallu, pour bien faire, lire tout le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, mais nous l'avons tous lu plusieurs fois. Nous savons bien que ce chapitre donne aux chrétiens, en matière de vie affective, de vie sociale, une grande liberté. Le chapitre respire la liberté, comme si le Seigneur venait nous dire: mes chers disciples, c'est à vous de voir ce qui convient pour votre vie. C'est à vous de voir. Libre de se marier seulement dans le Seigneur, nous l'avions dit la dernière fois. Mais à part cela, il y a peut-être deux versets importants. Le verset 35: je dis ceci pour votre propre avantage, non pour vous enlacer dans des liens, mais en vue de ce qui est bien séant et pour vous attacher au service du Seigneur sans distraction, que vous soyez marié ou célibataire. Et Paul s'appuie sur un raisonnement qui lui est habituel, qui est habituel à l'Écriture et qui est résumé dans ce que l'on a au verset 9. Or, je dis ceci, frère, le temps est difficile ou le temps est court. Le temps est court, et que ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas, etc. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde, le mot, c'est le schéma de ce monde. Les anglo-saxons ont une expression qui est difficile à traduire pour ça, c'est la manière de vivre. Elle est résumée dans les contes qu'on lisait autrefois quand on était enfant à propos du mariage, et qui terminait invariablement les contes. Et ils se marièrent, et ils eurent beaucoup d'enfants. Et voilà. Et tout est dit, et c'est fini. Il y a place pour cela, sans nul doute, mais Paul vient de dire ici, attention, il y a plus que cela. J'aurais dû citer dans le document qui a été fait, là, un psaume qui est important et qui rejoint ce sujet, c'est le psaume 49, où on voit l'homme qui s'appuie uniquement sur les choses terrestres. Simplement le verset 11, psaume 49, verset 11, « Leur pensée intérieure est que leur maison durera toujours. Et leur demeure de génération en génération, ils appellent les terres de leur propre nom. » Des gens qui ont leur nom sur les plaques des rues. Rue un tel, rue un tel. Ils appellent les terres de leur propre nom. « Pourtant, l'homme qui est en honneur ne dure pas, il est semblable aux bêtes qui périssent. » Et le psalmiste ajoute: « Ce chemin qu'ils tiennent est leur folie. » Et leur folie, s'appuyer sur les choses de la terre, en rester là. Et voilà. Donc on rejoint ce qu'on a en 1 Corinthiens 7 ici. La figure de ce monde passe, ce schéma-là, être de divorce en la répudiant. Et le Seigneur leur dit que c'est à cause de leur dureté de cœur, non pas qu'il a commandé de répudier, mais qu'il a permis. Et Dieu avait toléré dans l'Ancien Testament polygamie et divorce, on le voit bien. Et le Seigneur revient, au commencement il n'en était pas ainsi. Alors les disciples se récrient et ils disent, qu'on me pardonne la formule, mais c'est exactement, et c'est les disciples qui le disent, ce ne sont pas les pharisiens, c'est exactement ce qu'ils ont dans la pensée. Si c'est pour rester avec le même conjoint une vie entière, il n'y a pas intérêt à faire cela. C'est exactement ce qu'ils disent. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il n'est pas avantageux de se marier. Signe de leur temps, signe de leur mentalité, signe de l'égoïsme dans lequel sont nos cœurs, l'égoïsme de l'homme. Et alors, le Seigneur va non pas répondre à cela directement, il va leur dire, nous avions déjà dit deux mots, le Seigneur va leur dire: attendez, vous qui êtes mariés, vous venez vous plaindre en disant que c'est difficile de rester pendant toute une vie ensemble, pensez à ceux qui sont seuls dans la vie. Et c'est toute la fin du paragraphe, pensez à ceux qui sont seuls dans la vie. Et ceux qui, parmi ceux-là, ont tout laissé pour Dieu. Et alors, après on a l'histoire du jeune homme riche, je ne veux pas résumer tout Matthieu 19, mais après on a l'histoire du jeune homme riche, quelqu'un aussi qui est bien dans la vie. quelqu'un qui est bien dans la vie. Il a tout. Et quand le Seigneur lui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il dit « Mais j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Le Seigneur ne le contredit pas. Mais quand il lui dit « Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens, suis-moi. » Il est arrêté tout de suite. Il cale là-dessus, comme nous calons souvent. Et le Seigneur dit « C'est difficile. » Le Seigneur dit même « C'est impossible. » Il n'y a que Dieu qui puisse sauver. On rejoint ce qu'on a aussi au psaume 49. Un homme ne pourra en aucune manière acheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Alors le chapitre se termine avec cette question de Pierre. Pierre lui dit, mais et alors nous ? Et nous ? Nous avons tout quitté, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos bateaux, nous avons tout suivi. Qu'en sera-t-il de nous ? Que nous adviendra-t-il donc ? Ou, sous-entendu, quelle récompense aurons-nous ? Et le Seigneur leur donne cette réponse qui est remarquable, c'est que quiconque aura quitté quelque chose pour l'amour de son nom en recevra 100 fois autant. Une récompense promise. Et le Seigneur dirige les regards vers ce qui est éternel. Et peut-être que, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que, à la fois, nous sommes en tant que chrétiens dans une situation de très grande liberté devant le Seigneur pour nos vies, pour les faire, entre guillemets, avec lui, selon ce qu'il place chacun devant nous, et chacune devant nous. Mais toujours avec ce sentiment que marié ou célibataire, ce n'est pas l'important principal de la vie. Et ce qui aide dans la vie, c'est de considérer que finalement, on a autre chose. Il y aurait bien des choses à dire sur ce sujet. C'est un sujet difficile parce que ceux qui en parlent sont les frères, sont souvent des frères mariés, le plus souvent, et il nous est difficile d'entrer dans ce que peut être la peine de quelqu'un qui est seul et auquel pourtant le Seigneur vient accorder ici la vraie lumière sur ce qu'est le mariage, sur ce que peut être le célibat et sur ce qu'est pour un célibat bien appréhendé, bien saisi, bien conduit, ce que peut être une vie de dévouement qui dépasse souvent celle que nous, mariés, nous pouvons donner.
Les textes sur le mariage, le divorce et le célibat sont extrêmement courts dans la parole. Ce qui, comme Jean vient de le dire, rend difficile d'une certaine manière une étude longue sur ces sujets. La parole pose des principes généraux. Et comme Jean l'a souligné, elle laisse l'entière liberté et responsabilité d'appliquer à nos vies, à travers des temps différents, à travers des cultures très différentes, ces principes généraux. Et c'est aussi peut-être, sans vouloir excuser nos réponses un peu pas très pertinentes il y a 15 jours sur les différentes questions qui ont été posées, c'est aussi en partie pour cela qu'on reste toujours un peu dans le vague par rapport à des questions précises. Quand on demande est-ce que la parole permet un mariage de raison ? Peut-être, oui, je ne sais pas, non. Oui, oui, certainement, mais pas forcément. Voilà ce qu'on est amené à répondre. On a connu des mariages qui étaient des mariages de raison et qui continuaient par une véritable amour entre les conjoints. C'est la responsabilité de l'engagement de l'individu, de chacun. Y a-t-il une seule personne qui nous est vraiment destinée ? Peut-être. Peut-être que oui, c'est pas sûr non plus. La preuve, la facilité avec laquelle le remariage est envisagé dans la parole, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et il va ainsi de toutes ces questions un peu précises auxquelles nous sommes enclins à répondre d'après nos expériences, qui sont certainement utiles et intéressantes, mais qui ne constituent pas le fondement sûr sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et on voit bien ce que fait l'apôtre. En 1 Corinthiens 7, il a affaire à des gens qui sont dans une culture, dans un contexte, avec des problèmes. Et ce chapitre est une défense du mariage, parce qu'il y a des gens qui, à Corinthe, présentaient le mariage un peu comme quelque chose de un peu pas très spirituel, surtout parce qu'il comportait des relations sexuelles. Et ils avaient tendance à spiritualiser le mariage et à interdire aux conjoints d'avoir des relations entre eux. Paul vient clairement posée, ce qui était au commencement. Ils seront une seule chair. Il y en a d'autres qui auraient valorisé énormément le célibat en l'imposant. Paul vient montrer que le célibat a des avantages. Mais il ne dit pas que le célibat est supérieur au mariage. C'est souvent la conclusion à laquelle on arrive en lisant ce chapitre, mais qu'une conclusion hâtive. Les deux comportent des avantages et les deux comportent des risques. Et ce que Paul souligne, c'est que si le célibat donne plus d'opportunités, comme Jean l'a dit, pour servir le Seigneur, d'abord, ce n'est pas une exclusive, on peut le faire quand on est marié, et le célibat comporte aussi des dangers. Des célibats choisis. Il y a des célibats qui ne sont pas vraiment choisis. Et Paul laisse toute liberté là aussi. Quant au divorce, il faut bien en parler. Nous ne sommes pas à l'abri. Peut-être que comme chrétiens, nous aurions souhaité regarder un peu ce qui se fait autour de nous et puis dire, ben voilà, c'est ainsi que vivent les gens du monde, mais nous, nous sommes tellement supérieurs, cela nous échappe. Cela ne nous arrivera pas, hélas. La parole ne reconnaît qu'une raison valable pour le divorce. C'est l'adultère. Alors c'est vrai que les choses sont devenues compliquées aujourd'hui. Parce qu'on ne divorce pas pour cause d'adultère. Le plus souvent, ça arrive, bien sûr, hélas. Mais on divorce parce qu'on ne s'entend plus. Parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur, de tempérament. On est un peu dans la situation des disciples qui disent au fond, peut-être mieux pas se marier finalement. Chacun a envie de faire un peu sa vie à sa façon. Et alors effectivement, est-ce que le divorce légal est prononcé, c'est vrai. Mais est-ce que dans le fond, c'est-à-dire le divorce, je dirais dans sa réalité physique, est-il prononcé? J'en suis pas sûr. Car cela supposerait adultère. Et l'Ancien Testament est très clair là-dessus. Il dit quelque chose d'étonnant, c'est, je crois, dans Deutéronome 24. Deutéronome 24, si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'elle arrive, qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle une lettre de divorce, et la lui mettra dans la main, et la renverra hors de la maison. Il n'est pas question d'adultère. Pour une raison très simple, c'est que l'adultère, dans l'Ancien Testament, est immédiatement sanctionné par la lapidation et la mort. Donc, le divorce n'a pas lieu d'être. Et on voit la grâce qui est là, c'est qu'il y a quelque chose de malséant. Et les traducteurs ont eu beaucoup de mal à traduire, parce que malséant, ça veut dire quoi? Certains disent inconvenant. Alors, c'est vrai que ça peut sous-entendre, et ça a été le cas, et ça a été reconnu, des incompatibilités physiques, il y a des problèmes psychologiques, des problèmes moraux peut-être aussi. Et donc, dans ce cas-là, il fallait écrire une lettre de divorce qui protégeait la femme qui ainsi n'aurait été rejetée, mais pas pour adultère. Et donc, on lui épargnait la lapidation et en plus, on lui permettait de se remarier, de reconstruire sa vie à une époque où matériellement, il était impossible de vivre pratiquement sans être remarié. Et on connaît la grâce avec laquelle Joseph, vis-à-vis de Marie, envisage cette situation qui est la situation, je dirais, la plus charitable, la plus pleine de grâce, qui préserve l'avenir. On voit comment la grâce s'introduit même dans l'Ancien Testament. Mais que dire du Seigneur qui, me semble-t-il, abolit d'une certaine manière la lapidation vis-à-vis de la femme adultère, quand il dit « va, ne pêche plus ». C'est la grâce dans toute son étendue. Et c'est avec la même grâce que nous devons aborder ces cas difficiles. Nous avons toujours tendance à prononcer immédiatement un jugement dur qui nous donne une bonne conscience et pas toujours à comprendre la difficulté des situations et peut-être ajouter à une situation qui est toujours douloureuse, un divorce est toujours douloureux, ajouter encore des douleurs qui ne sont pas toujours, qui n'amènent pas forcément repentance et bénédiction à la fin, même si cela peut arriver exceptionnellement. Et donc il y a tout un ensemble ici de faits qui qui sont joints, qui sont liés les uns aux autres, mariage, divorce, célibat. Un mot sur le célibat, il a des avantages, Jean l'a dit, mieux servir le Seigneur. Paul dit que, il dit même, c'est frappant, il dit aux Corinthiens, je crois, plus si c'est dans la première ou la seconde, épître aux Corinthiens, peut-être la première épître aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens qu'il est leur père. Donc le célibataire a une grande famille. C'est 1 Corinthiens 4, verset 15. « Car quand vous auriez mis une mère dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'Évangile. » Voilà Paul qui est le père des Corinthiens, un célibataire. Paul était probablement célibataire, il y a de discussions là-dessus, mais je crois qu'on peut retenir quand même cette hypothèse. Et puis juste après, Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, oui, un célibataire peut avoir une famille. Et ça, c'est très encourageant. Il y a des dangers, chacun les connaît. C'est renier son célibat par des chutes plus ou moins graves ou tomber dans l'amertume. Et ça aussi, ce sont des situations qui sont difficiles. Ce que Dieu demande, je crois que Jean l'a souligné, c'est que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le célibat, c'est que notre oui soit oui et notre non soit non.